Certainement que cela exprime la volonté d'intensifier les liens. J'ai reçu, d'une certaine manière, cette mission en devenant président de la Commission pour l'Amérique latine. Le Saint-Père a exprimé ce désir que les liens soient intensifiés. Et donc, cette fête religieuse de Notre-Dame de la Guadeloupe, qui est célébrée partout en Amérique latine, surtout au Mexique, mais aussi partout. C'est une fête qui a une signification religieuse très profonde et aussi culturelle, n'est-ce pas, pour tout le continent. Et le fait qu'elle soit présidée par le Saint-Père à Rome, à l'occasion des célébrations du bicentenaire qui existe un peu partout dans les milieux universitaires, dans les milieux ecclésiaux d'Amérique latine et même dans les milieux gouvernementaux, eh bien, cela associe l'Église à des événements qui ont une grande importance pour le continent et qui ont aussi une grande importance pour l'Église dans l'évangélisation du continent.
Alors effectivement, on a bien vu que l'annonce de cette célébration a eu un vaste retentissement en Amérique latine. Elle a été accueillie avec beaucoup de joie, d'enthousiasme. Alors vous n'êtes pas surpris par cet intérêt, par cette réaction?
Pas du tout. Nous avions envoyé d'ailleurs l'invitation au président des conférences épiscopales, à travers aussi les ambassadeurs au gouvernement des pays et dans les milieux universitaires. La réponse était très enthousiaste. Il y a plusieurs délégués qui viennent, plusieurs cardinaux qui viennent, des délégués des conférences épiscopales, des ministres et des députés qui viennent pour représenter leur pays et qui sont très heureux d'avoir comme cette reconnaissance du Saint-Siège, de la réalité latino-américaine et de l'importance du continent latino-américain dans l'Église catholique.
Alors, deux siècles après les indépendances, la plupart des pays latino-américains sont toujours confrontés à de nombreux défis, on le sait. Alors j'avais envie de vous demander, Éminence, s'il y avait à l'heure actuelle des dossiers qui préoccupent de manière plus urgente, prioritaire, les églises locales et le Saint-Siège en particulier. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez attirer l'attention?
Certainement que le phénomène de la sécularisation pénètre aussi dans le continent latino-américain et l'Église réagit à ce phénomène, surtout à partir de la rencontre de la conférence des évêques à Aparecida en 2007, où on a lancé pour les 10 prochaines années une mission continentale où l'accent est fortement sur l'évangélisation. Je crois que ça, c'est un nouvel accent où on veut aider les communautés locales à prendre conscience de leur identité catholique et puis aussi à conserver ce patrimoine qui fait l'unité du continent latino-américain. Donc, un patrimoine qui est linguistique, mais un patrimoine qui est surtout religieux, de piété populaire, par exemple. Et cela est un des dossiers prioritaires que pour la nouvelle évangélisation, nous devons intégrer et valoriser davantage tout ce qui est de piété populaire. La dévotion à la Vierge Marie, eh bien, c'est un fait culturel continental et c'est une protection en même temps contre, disons, les dangers de division qui viennent de l'influence de d'autres groupes religieux qui pourraient, disons, jusqu'à un certain point, détruire cet héritage. Évidemment, il reste aussi toujours le grand défi du décalage entre les riches et les pauvres. Et la nouvelle évangélisation ne veut pas dire que les problèmes sociaux sont laissés de côté. Au contraire, ils sont affrontés, mais à partir vraiment du centre de la foi, à partir du témoignage de Jésus-Christ. Et ainsi, nous pensons aussi que des solutions plus adéquates, moins idéologiques, seront apportées aux problèmes sociaux.
Est-ce qu'on peut revenir sur la question des sectes, justement, parce que vous parliez d'autres mouvements religieux. On sait qu'en Amérique latine, les sectes constituent quand même une menace réelle pour le catholicisme. Est-ce que l'Église doit devenir plus proche du peuple, plus pastorale?
Oui, je crois aussi, et surtout, que l'apostolat des laïcs doit se développer davantage. Évidemment, encouragé par leurs pasteurs et leurs évêques qui doivent prêcher la parole de Dieu, surtout. Je crois que par rapport aux sectes, il y a effectivement une influence qui est forte et qu'il faut combattre, mais il ne faut pas utiliser le mot d'une façon trop polémique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut se concentrer sur l'affirmation du positif. Par exemple, l'annonce de Jésus-Christ, et non pas dénoncer mur à mur, si vous voulez, les phénomènes qui sont marginaux. Et je pense en particulier au mouvement pentecôtiste que nous traitons avec respect, parce que c'est un mouvement de prière, c'est un mouvement qui cherche à raviver le sentiment religieux. Il a des aspects positifs et il a un aspect aussi de masse et il a un aspect médiatique très important. Alors, j'ai vu au Brésil, par exemple, que l'Église a su affronter ce défi en développant des moyens de communication, même télévisés, qui sont catholiques et qui ont une influence médiatique continentale ou nationale. Alors, c'est aussi une réponse à ce défi. Et l'Église cherche toujours à respecter les autres réalités religieuses et à ne pas traiter d'une façon méprisante, si vous voulez. Le mot secte est vraiment un mot péjoratif. Nous cherchons vraiment le dialogue et puis à faciliter l'entente parce qu'au fond, le substrat culturel, religieux est le même dans ces pays-là. Alors, il faut miser sur ces facteurs unitifs. Et je pense à la dévotion à la Vierge Marie, encore une fois, qui est peut-être la meilleure défense contre les éléments qui pourraient diviser.
Vous évoquiez le fossé entre riches et pauvres, qui est évident dans certains pays d'Amérique latine. Les chrétiens ne peuvent pas rester indifférents à cette situation. Mais d'un autre côté, on a parfois reproché à une certaine partie du clergé, surtout, de s'être trop investi dans le social et d'avoir peut-être négligé le spirituel.
Je crois que il y a un équilibre à trouver qui n'a sans doute pas toujours été tenu de façon satisfaisante. Par exemple, dans certains courants de théologie de la libération, on avait l'impression qu'il y a un programme social qui semble vouloir répondre aux besoins, et le christianisme est comme une symbolique qui permet de soutenir un engagement politique ou un engagement social. Alors, l'effort de l'Église, à travers les discernements qui ont été faits sur la théologie de la libération, a permis de recentrer l'attention sur une christologie qui soit satisfaisante. C'est vraiment Jésus-Christ que nous annonçons, c'est lui la réponse aux besoins de l'homme, et à partir de l'union avec lui, authentiquement religieuse et catholique et sacramentelle, eh bien, naît un engagement qui sera, je dirais, d'une qualité supérieure à celui que l'on cherchait et qui était parfois conditionné par des éléments idéologiques, je pense au marxisme par exemple, excessif, qui ne rendait pas service au fond au continent. Alors, cette clarification, elle a été faite. Je crois que nous sommes dans des conditions maintenant pour faire vraiment une action sociale plus efficace, plus créatrice, mais qui procède vraiment du cœur de la foi et qui donc soit soutenue à long terme.
On dit parfois qu'il y a des divergences, des différences de perception entre l'hiérarchie et entre parfois la base sur le terrain qui côtoie des situations dramatiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut lutter contre cela? Est-ce que c'est inévitable? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Je crois que la première préoccupation des évêques doit être toujours l'unité de leur diocèse. Il doit s'efforcer de garder la famille unie en respectant la diversité des charismes. Ce qui convient aux laïcs, bon, l'action politique, l'action sociale doit être pratiquée par les laïcs et les prêtres doivent se concentrer sur l'annonce de la parole de Dieu, le soutien sacramentel des fidèles et ne pas se mêler directement au moins de politique, mais ils doivent former la conscience des chrétiens pour que eux s'engagent d'une façon efficace dans le domaine où c'est eux qui sont compétents. Alors, l'évêque doit veiller à discerner les charismes et puis en poser aussi les limites et aider la grande famille diocésaine à œuvrer dans l'unité pour que l'Évangile soit témoigné d'une façon crédible.
Pour terminer, on dit que cette célébration sera en quelque sorte le prélude au voyage que le pape va effectuer en Amérique latine et plus précisément à Cuba et au Mexique.
Quand nous avons entendu, n'est-ce pas, les bruits autour de ce voyage, nous avons sauté d'allégresse et nous avons pensé que cette fête de Notre-Dame de la Guadeloupe à Saint-Pierre, eh bien, était un merveilleux prélude de ce voyage. Mais je voudrais laisser au Saint-Père, s'il a quelque chose à confirmer, eh bien, toute la liberté pour le faire lors de cette célébration.